Pour réussir le pass, il faut faire preuve de persévérance et de méthode. Mais rassure-toi, ça s'apprend. Ici Luca de la team Hermione et bienvenue dans Road to Numerus, le podcast dans lequel on décortique le succès d'autres étudiants qui ont réussi le pass. Ensemble, on va se plonger dans leur routine de travail pour que tu évites les pièges dans lesquels ils sont tombés et que tu profites de leurs meilleurs conseils pratiques pour réussir cette année. T'es prêt ? Parce que ça part de là. Quand t'arrives en passe, t'as l'impression de prendre une claque. C'est beaucoup de travail, c'est dur et c'est compétitif. Alors pour augmenter tes chances de réussite, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'apprendre à travailler efficacement. Après avoir réussi la première année, on s'est réunis avec des professeurs et des spécialistes de la productivité et ensemble, on a créé la méthode PASS. C'est notre formation en ligne captivante qui te donne les méthodes pour travailler efficacement. En gros, on te prend par la main pour que tu passes d'un lycéen qui a du mal à travailler en un étudiant très productif. On t'apprend à t'organiser, à te concentrer et à mémoriser pour que tu gagnes des places au classement. Alors si ça t'intéresse, rendez-vous sur hermione.co. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Manon du compte Little Pharma sur Instagram. Tu es maintenant en troisième année de pharma et tu étais en terminale S au lycée Aliénor d'Aquitaine à Poitiers, c'est bien ça?
Tout à fait.
Ben écoute, en tout cas, je suis ravi de te recevoir Manon, ça me fait très plaisir de t'avoir sur le podcast, qu'on va discuter un peu de ton expérience première année, des petits conseils que tu pourrais donner, et puis ensuite un peu de la pharma et de ce que tu fais aujourd'hui. Écoute, raconte-moi un petit peu là, tiens, comment est-ce que tu es arrivé en première année de médecine? Quel est ton parcours?
C'est assez compliqué car de base, j'avais pas trop d'idées de ce que je voulais faire. Donc, je me suis lancée en termes S en me disant que c'était un peu la filière qui nous ouvrait le plus de portes. Maintenant, avec le changement du bac, je sais que c'est un peu plus compliqué. J'ai fait un stage en troisième année parce que de base j'étais intéressée par la filière, donc plutôt sage-femme, sauf qu'il n'était pas possible de faire un stage quand on a 14 ans, on nous refuse des portes parce qu'on n'est pas assez mature et tout, ou on ne peut pas respecter le secret professionnel et tout ça.
Tu parles du stage d'une semaine là, en troisième?
Ouais, exactement.
D'accord.
Exactement. Et donc du coup, je me suis retrouvée en pharmacie. Complètement par hasard, puisque c'était un peu le seul endroit qui collait au médical en quelque sorte et qui voulait bien m'accueillir aussi. Okay. Et en fait j'ai découvert l'officine et ça m'a plu parce que c'était finalement ce que je recherchais et tout, et je me suis un peu plus renseignée sur cette filière là, ouais. Sans oublier le côté sage-femme parce que c'était aussi un truc qui m'intéressait par les émissions type Baby Boom ou quoi que ce soit, que j'avais aussi découvert un peu ce métier-là. Je me suis lancée dans la filière S. Je me suis lancée j'ai intégré la PACES à Poitiers. Et j'ai toujours eu l'hésitation entre ces deux filières parce qu'il fallait faire un choix au second semestre de PACES entre quelle filière j'allais prendre finalement à la fin. Je suis restée un peu sur mon avis de mon stage que j'avais fait en officine et je me suis dirigée vers la filière pharmacie.
Ok. Ça, on va revenir sur l'officine un peu plus tard dans le podcast, parce que c'est très intéressant et je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ne connaît pas vraiment ce que c'est, donc ce serait intéressant d'en parler. Maintenant, j'aimerais revenir un peu sur la transition entre la terminale S et ta première année de médecine. Dis-moi, comment c'était? Est-ce que tu étais une bonne élève déjà en terminale S ou alors est-ce que juste tu te contentais d'avoir la moyenne?
Je travaillais énormément parce que j'ai toujours adoré les études et donc du coup je travaillais beaucoup beaucoup beaucoup, j'avais des bonnes notes, je tournais autour de 14-15 de moyenne en général, mais la transition entre ma terminale et ma passée, ça a été très 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 compliqué parce que finalement on rentre dans un monde de grands où il n'y a plus les profs pour nous accompagner, où on se retrouve un peu tout seul face à nos cours. Et j'ai mis énormément de temps à m'adapter et j'ai pris énormément de retard dès le premier semestre finalement, car j'arrivais pas à être à jour, j'arrivais pas à apprendre mes cours comme je les apprenais au lycée finalement. Je surlignais juste mes cours et je me disais, c'est acquis, c'est bon, on passe à autre chose. Et finalement, quand l'école arrivait et qu'on se prenait un petit 5, 6 sur 20,
Ah oui.
c'était très compliqué. Donc
Bah,
voilà.
c'est vrai que en vrai, on va pas se le cacher, hein, quand on est au lycée, bon, on travaille un peu la veille pour le lendemain, les contrôles, ça passe sans trop réviser. C'est pas mal de par cœur, mais on n'est pas très exigeant dans les attentes. Enfin, je veux dire, les profs sont pas autant exigeants que quand en première année de passé, ce quoi, c'est sûr. Et puis la quantité de travail, ça n'a rien à voir. Ça n'a
Et
rien à
puis les
voir.
cours sont différents, c'est aussi un peu plus, enfin c'est plus simple en quelque sorte, enfin c'est vraiment pas pareil. Et ouais, c'est vrai que le fait de se retrouver, enfin au début, j'essayais de réécouter le cours du prof et de noter mot pour mot tout ce qu'il disait, mais c'était déjà quasiment impossible et que, enfin même à apprendre, enfin on savait pas s'il fallait apprendre tout par cœur, si le prof pouvait nous piéger sur des petits pièges comme il le faisait au tutorat ou si finalement fallait juste rester sur l'essentiel comme on faisait un peu en terminale quoi finalement.
Et du coup, par rapport au lycée, qu'est-ce que tu as changé, j'imagine, du coup, au S2? Qu'est-ce que tu as changé dans ta façon de travailler, en fait?
Je me suis fait un planning d'orga. Enfin, je veux dire, c'était un truc que je ne faisais pas du tout en terminale, parce que ben, finalement, enfin, je faisais mes devoirs avec mon petit agenda et c'était tout. Et là, du coup, je me suis enfin, vraiment fait des plannings où je révisais, où je me fixais des heures et je me disais de telle heure à telle heure, je révise tel cours, je fais tel QCM. Et finalement, enfin, je me suis créé un peu enfin, toute une organisation que. Bah, que j'ai mis beaucoup de temps à créer aussi et qui encore aujourd'hui bah, change un peu en fonction des années. Et justement, enfin, genre, c'est hyper important et c'est, je pense, la clé pour réussir finalement bah, dans les études sup et peu n'importe les études qu'on fait, je pense.
Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah, surtout quand on a une telle quantité de travail, s'organiser, c'est vraiment la clé. Et comme tu disais, tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est que tu mettais des time codes, en fait, des heures, c'est ça, sur les choses que tu voulais faire. Ça, c'est super parce qu'en fait, c'est comme une petite pression qu'on se met à soi-même, une espèce de petite pousse dans le dos. Qui nous pousse à accomplir chaque objectif qu'on a quand on y met une petite heure, par exemple, hop, l'UE3, je le fais de 15 à 17, par exemple, tu vois, des choses comme ça.
Oui, c'est ça exactement. En fait, je faisais ça et après, enfin, effectivement, si je voyais que j'avais pas fini de réviser tel cours et que ben, j'allais déborder sur l'heure d'après, eh ben, j'essayais de réorganiser mon emploi du temps. Enfin, en quelque sorte, je me mettais pas. Enfin, je me mettais cette petite pression, mais je me disais pas, faut absolument que j'ai fini à 17h pile ou j'ai pas le droit de me prendre une pause de telle heure à telle heure. Enfin, voilà, si je voyais à un moment donné que ça allait pas et que j'arrivais pas à avancer, ben, je me prenais une pause parce que je savais très bien que. Enfin, j'allais pas avancer mieux en me forçant à travailler finalement.
Oui, bien sûr. Dans les pauses, c'est vraiment capital aussi. Ça, on va revenir dessus un peu plus tard dans la partie conseil. Mais est-ce que tu m'as dit que du coup, pour le S1, tu avais été en retard et tout. Est-ce que tu te rappelles le moment où tu étais le plus en retard dans ton année?
Je pense que le moment où j'étais le plus en retard dans mon année, c'était après le concours blanc où il restait, je crois, une semaine et demie avant le vrai concours. Où là, du coup, c'était totalement la pagaille. Enfin, j'avais plein de polis en retard et tout. Et je me suis mis à faire des impasses. Enfin, je me rappellerai toujours, j'avais pas du tout ouvert un seul poli d'embryo.
Ouh
Et quand je
là, ah
suis
oui.
et quand je suis arrivée au concours, mais c'était une misère parce que ben, j'avais fait des impasses sur des trucs qui finalement où il y avait beaucoup beaucoup de QCM dessus et que ben, mettre au pif, ben, des fois ça marche, des fois non. Et du coup. C'est vrai que ça a été très très compliqué cette période-là parce que ben, entre essayer de rattraper son retard et de bosser, enfin finalement de réviser ses cours qu'on considérait comme appris mais qui n'étaient pas du tout appris, c'était le moment où j'ai le plus paniqué, je pense.
Ah ben, j'imagine, et du coup, tes résultats de concours blanc t'ont pas vraiment motivé. Et avec du recul, tu penses que c'était dû à quoi que en fait, tu t'es pas mis tout de suite à t'organiser comme ça? Tu t'es dit, genre, je vais m'adapter pendant l'année ou comment ça s'est passé?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je vais attendre les polis du tutorat. Parce que du coup, à Poissy, on a la chance d'avoir un tutorat qui nous fournit les cours sous forme de polis. Du coup, je me suis dit que j'allais attendre bah, du coup, que ces polis sortent. Sauf que ça a commencé bah, 3 semaines après la rentrée. Et que bah, du coup, en 3 semaines, il y a eu déjà beaucoup, beaucoup de cours qui étaient passés. Et que j'ai un peu chill les 3 premières semaines de septembre. Et que
Oui.
bah, quand les polis sont arrivés, c'était souvent pas des polis, enfin du coup assez petits quoi. C'était des polis qui résumaient 3-4 cours. Donc c'était enfin très très compliqué bah, finalement de rattraper mon retard que j'avais pris en chillant les 3 premières semaines de septembre.
Ok, donc si tu as un conseil à donner, c'est s'y mettre dès le début, quoi. Il n'y a pas de chill en début de vie étudiante, c'est direct, on s'y met, quoi.
Exactement. Genre, faut pas du tout prendre du retard. Mais après, je sais que c'est très compliqué et que c'est une grosse pression. Et que bah, du coup, enfin, genre, j'ai un point qu'on m'a toujours dit, c'est les bruits de couloir. Parce que bah, y en a beaucoup qui parlent en disant, moi, j'ai pas de retard, moi, je suis à jour sur tel cours et tout. Et ça, peu importe les études et peu importe la filière, j'ai envie de dire, on entend toujours des gens qui parlent comme ça, qui se la ramènent finalement. Et ça, faut absolument pas les écouter. Et moi, j'ai fait l'erreur d'écouter un peu ces bruits de couloir. Et c'est vrai que c'est démoralisant d'entendre des gens qui disent moi je suis à jour, j'ai des trop bonnes notes, machin, truc, chouette. Et donc voilà, du coup c'est un truc, enfin c'est un conseil que je voudrais donner, c'est vraiment ignorer les gens qui se la racontent un peu comme ça, parce que finalement c'est des gens qui ont besoin de se rassurer eux-mêmes. Et donc du coup ils se disent ça pour se rassurer à voix haute, mais finalement ils ont du retard comme nous. Hein.
Ah oui, non, mais clairement, ça, il faut le savoir. Tout le monde est en retard à un moment ou à un autre. Il y a personne qui est en avance sur ses cours ou qui est à jour sur ses cours. Il y a toujours un moment où tu es en retard. C'est tout à fait normal. C'est vraiment tout à fait normal. Tu m'as dit que tu t'avais été un peu démotivé par, du coup, ces bruits de couloir. Est-ce que tu as eu un petit coup de mou, du coup, juste après le S1, quand tu as été déçu un peu de ton concours blanc et peut-être de ton concours, enfin, ton S1, en fait. Et comment ça s'est passé, en fait?
J'ai eu un coup de mou, ouais, enfin janvier, février. J'ai envie de dire, lors de mon S1, ça a été surtout le mois de novembre où ça a été le plus dur, parce que bah, du coup, comme on parle souvent de la novembrose, bah, en PACES, on le vit énormément, je trouve. Parce que bah, du coup, finalement, on sort quasiment plus de chez nous parce qu'il y a le concours qui approche et le stress qui monte. Et puis, il y a aussi beaucoup de retard qui est accumulé. Et il fait nuit-tôt et tout, donc ça déprime beaucoup de gens. Et moi je suis passée par là. Et après, enfin janvier-février, ça a été très compliqué de m'y remettre après les vacances, parce que du coup on a eu un mois de vacances à Poitiers et les résultats n'étaient pas forcément hyper bons. Et donc du coup j'ai mis énormément de temps à me remettre aussi dedans et essayer de me dire, bah, on peut toujours remonter des places, on peut toujours essayer de, bah, du coup d'apprendre des choses en se disant que c'est pas perdu, parce qu'on pourra peut-être redoubler. Et finalement, tout ce qu'on aura appris cette année, bah, c'est des choses qui seront plus sympas à réviser pour l'année d'après, quoi. Et donc, du coup, je me suis motivée un peu comme ça. J'ai beaucoup, beaucoup été soutenue par ma marraine de PACES. Et elle m'a soutenue aussi énormément, lors de mes 2 PACES et de ma PH2, donc du coup, ma deuxième année de pharma. Et du coup, c'est elle qui m'a permis aussi de me rebooster et de trouver un peu la motivation. Et puis, je me suis dit que je faisais ça. Enfin, si j'étais rentrée dans ces études, je savais que c'était dur de base, mais que je faisais ça surtout pour le métier à la clé, quoi. Et qu'il fallait pas que j'abandonne maintenant, pas après tout ce que j'avais finalement traversé. Donc après tout le S1 et tout, il fallait absolument que je continue et que je me donne à fond et que j'essaye de garder la motivation comme je pouvais. Donc voilà.
Et du coup, si j'ai bien compris, du coup, tu as fait 2 PACES, c'est
Oui,
ça?
exactement.
Et alors, raconte-moi comment ça s'est passé pour toi, du coup, la fin de la première et le début de la deuxième. Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là?
La fin de la première, quand j'ai eu mes résultats, j'ai pleuré parce que finalement, on m'avait dit, oui, avec ton classement, peut-être que ça peut passer, parce qu'en pharma, le numerus clausus, il y en a très peu qui prennent les places, et donc du coup, ça va passer et tout. Donc du coup, je m'étais fixée là-dessus en me disant que je passerais primante, que j'allais faire mon stage. En officine, que tout allait bien se passer, que j'allais être en PH2 l'année prochaine, enfin voilà. Et quand les résultats sont tombés, ben, finalement, j'étais sur liste d'attente et j'étais très très loin. Enfin, j'ai loupé, enfin j'étais loin et pas loin en même temps, parce que c'est remonté pas mal. Mais du coup, j'ai loupé pharmacie, il me semble, de 26 places pour ma première PACES. Et j'avais énormément, énormément, finalement, le seum, en quelque sorte. Et j'étais très 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 très. Enfin, j'étais très déçue de moi parce que ça s'est joué, 26 places, ça se joue à un ou deux QCM et ça se joue peut-être sur les impasses que j'avais fait. Et du coup, j'étais complètement démoralisée, j'avais même plus envie de redoubler parce que j'avais pas envie de revivre cette année-là. Et j'avais clairement dit, même à toute ma famille, je leur avais dit non, je redouble pas, je m'en vais en bio et puis on verra bien, je ferai autre chose, j'arriverai peut-être à prendre une passerelle et à revenir en pharmacie plus tard ou pas. Et là, mes parents ont été d'un grand soutien et ils m'ont dit non, mais il ne faut pas que tu abandonnes. Tu ne peux pas abandonner. Enfin, je veux dire, tu as acquis pas mal de choses cette année et ça va être que du bonus l'année prochaine en redoublant. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, je redouble, et puis on verra bien ce que ça va donner. Et donc, du coup, en dès septembre, je me suis mis à travailler mais d'arrache-pied, quoi. J'ai vraiment tout donné sur le S1 de ma deuxième PACES. J'ai changé totalement ma méthode de travail. Je me suis remis en question sur beaucoup, beaucoup de points. Finalement, ça a été vraiment bénéfique parce que j'ai gagné, j'ai gagné 400 places entre mes deux S1 de PACES. Donc, voilà.
Et du coup, justement, raconte-moi, c'est quoi les erreurs que tu avais fait en première année que du coup, tu n'as pas refait, tu savais qu'il ne fallait pas refaire en deuxième année?
Bah, du coup, la première erreur, ça a été vraiment de travailler dès le début pour pas prendre, pour pas prendre du retard, de m'organiser, mais vraiment, vraiment à la clé et de noter, en fait, finalement, mes erreurs. Donc, du coup, je tenais un petit carnet et ça, ça c'est un conseil qu'il faut absolument faire, c'est... noter ses erreurs parce que c'est très utile. Et donc, du coup, je tenais un carnet pour chaque UE. Enfin, je notais donc mes erreurs au QCM et je mettais des plus à côté sur mes polys où j'avais fait des erreurs et tout. Et comme ça, quand je reprenais le cours, je relisais mes erreurs et je me disais, voilà, il faut que j'insiste sur telle partie du cours parce que c'est là où je me suis trompée et tout. Et ça m'a été vraiment bénéfique là-dessus. Et je me suis aussi beaucoup plus entraînée parce que finalement, c'est des trucs que je faisais très peu, des QCM et tout. Et arriver, c'est sûr que quand on arrive au concours et qu'on ne s'est pas du tout fait d'anal ou très peu de QCM, et bien, finalement, on ne sait pas trop où on en est dans les cours, si on les connaît bien et tout. Et donc, ça a été un truc que je me suis vraiment fixé dès ma deuxième PACES. Enfin, je me suis dit, je fais beaucoup, beaucoup d'entraînement, beaucoup de QCM. Je m'étais inscrite à une prépa en ligne qui proposait des QCM. Je travaillais énormément avec ça aussi. Et ça a été, je pense, du coup, un peu la clé. Parce que les annales, je les connaissais par cœur à la fin. Et arrivé au concours, quand il y avait des annales qui ressortaient, ça a été largement plus simple parce que je les avais déjà mémorisées. Et donc, du coup, j'avais juste à... Enfin, je me souvenais des réponses et ça allait beaucoup plus vite. Et vraiment, c'était beaucoup mieux.
Ça, c'est la bonne technique, hein. Je valide 100%. Comme tu disais, du coup, apprendre son cours, donc le comprendre pour l'apprendre, donc pas juste surligner comme tu disais. Ensuite, se tester avec des QCM. Et à côté, quand on fait des erreurs, se noter un petit carnet d'erreurs pour éviter de les refaire. Ça, c'est je valide 100% ta technique et je comprends maintenant pourquoi tu as réussi la deuxième fois. Tout à l'heure, on a parlé de pause un peu vite fait. J'aimerais bien qu'on revienne un peu dessus. Si maintenant, aujourd'hui, un payant te demandait comment est-ce qu'il devrait organiser ses pauses, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je vais parler un peu de comment je m'organisais au niveau pause. Je prenais toujours un temps après manger parce que je savais que sinon, j'allais m'endormir sur mes cours. Donc souvent, je regardais une petite série tranquille, posée dans mon lit. Je chillais un peu après manger. Et ensuite, ça me permettait aussi de repartir, c'était pas forcément toujours facile, mais ça me permettait de repartir sur mes révisions l'après-midi. Et très souvent, le soir, je ne travaillais pas parce que je n'arrivais pas du tout à travailler. Et je passais très souvent mes soirées, pareil, à regarder des séries ou à faire complètement autre chose et à profiter aussi un peu de ma famille et tout. Et je travaillais le week-end très souvent, je me gardais toujours un jour de pause parce que ça me permettait de souffler aussi et de faire une coupure dans la semaine. Et comme ça, je me disais, tel jour, je sais que c'est mon jour de pause, donc je prends ma pause. C'était vraiment essentiel pour moi. Et je pense que si aujourd'hui on me demande un peu comment prendre ses pauses, je dirais que c'est dès qu'on en ressent le besoin. Parce que je me suis rendu compte que en prenant pas de pause, j'ai essayé aussi comme ça, et que c'était très très compliqué pour moi de tenir sur la longueur à apprendre des cours sans cesse, et que j'étais très fatiguée à la fin, et c'était vraiment pas bénéfique d'arriver au concours fatiguée. On apprend beaucoup moins en prenant pas de pause, et même aujourd'hui dans mes études, je prends toujours des pauses, ne serait-ce que toutes les 1h30, je fais une petite pause, une petite coupure de 5-10 minutes pour aller voir son portable ou faire complètement autre chose. Et ça fait vraiment du bien et ça permet bah, du coup de se remettre dedans après et de travailler plus sur la longueur.
Ah ouais, non, mais ça, c'est, je suis 100% d'accord avec toi. Il faut savoir s'accorder des pauses au moment où vraiment on en a besoin. Et même des moments où on ne sent pas forcément le besoin, mais si on a travaillé depuis un petit moment, c'est bien des fois de, en fait, de complètement changer d'air pour après revenir un peu plus motivé, un peu plus concentré. Est-ce que tu considérais que le sommeil faisait partie de tes pauses? Je veux dire, comment tu gérais ton sommeil par rapport à bah, du coup, ta charge de travail? Tu me disais que tu ne travaillais pas le soir. Est-ce que ça veut dire que tu te levais très tôt le matin? Ou comment tu faisais?
Je suis une grande dormeuse de base, donc du coup le matin, je me levais, à vrai dire, je m'imposais un peu un rythme, du coup avec un réveil parce que ben, sinon je dormirais beaucoup plus que je travaillerais. Donc, souvent le matin, je commençais à travailler entre 8 et 9 heures. Et du coup le soir, j'essayais de pousser jusqu'à 19-20 heures grand max. Et voilà. Et après, je sais que le sommeil, enfin pour moi, le sommeil a une place très très essentielle, parce que bah, du coup, j'ai besoin de beaucoup dormir aussi pour être bien et tout. Mais je sais que c'est très important. Et ça, c'est aussi un gros gros conseil. Il faut dormir parce que, j'ai connu des personnes qui travaillaient, qui dormaient pas du tout et qui travaillaient toutes les journées et toutes les nuits. Et je sais vraiment pas comment ils faisaient pour tenir sur la longue. Mais je sais que, enfin, c'est très très important, bah, du coup, d'avoir une bonne hygiène de vie à côté, de dormir. Et c'est comme ça qu'on réussit parce que ben, finalement notre cerveau travaille la nuit et ça moi je m'en suis beaucoup rendu compte. Souvent ce que je faisais c'est quand j'arrivais pas à mémoriser un cours, ben, je le relisais juste avant de dormir, je dormais dessus et le lendemain ben, finalement je l'avais quasiment mémorisé en fait finalement. Donc
Oh, mais
voilà.
c'est trop bien ça, t'as un super pouvoir là. Non mais c'est vrai, t'as tout à fait raison encore une fois, le sommeil c'est vraiment ultra ultra important. C'est pendant le sommeil que notre cerveau régénère un peu ses capacités, donc si on le prive de sommeil, qu'en plus on le bourrine avec une quantité de travail folle, on lui demande d'apprendre des informations en masse, forcément qu'au bout d'un moment il va commencer à perdre, comment dire, à perdre en capacité. Et ça va nous frustrer, du coup on va essayer de rattraper son retard, et du coup en fait c'est un cercle vicieux. Et plutôt que d'entrer là-dedans, mieux vaut se fixer une horaire de coucher, de lever fixe, comme ça le rythme de sommeil reste le même, et ensuite on fait ce qu'on peut, on fait de son mieux la journée, et au fur et à mesure, on aura le temps de faire tout ce qu'il y a à faire, on aura le temps. Bah, si tu veux, maintenant on va parler un petit peu de ce que tu fais maintenant, la pharma. Donc raconte-moi un peu, c'était quoi ton classement du coup pour aller pour pouvoir shifter ensuite en pharma après la deuxième année?
Est-ce que tu souhaites que je donne mes classements de ma première année et de ma deuxième année ou pas?
Bah, pourquoi pas,
Enfin,
ouais.
des deux passes.
Ouais, vas-y.
Du coup, au S1 de ma première année, j'étais 688.
Ouais.
Bah, du coup, enfin, à Poitiers, on n'est pas nombreux par rapport à certaines facs. On était 1300, il me semble.
D'accord.
Donc voilà. Je suis arrivée à la fin de ma première P1 où j'étais ben, du coup au classement neutre, donc du coup sans les coefficients, j'étais 600, il me semble 620, dans les 620, j'avais gagné quelques places mais pas énormément.
Ouais.
En pharmacie, j'étais classée ben, du coup sur liste d'attente, j'étais 176e et il y avait 72 places, voilà, il y a 72 places à Poitiers pour avoir pharmacie. Lors de ma deuxième P1, du coup, j'ai été classée 299 à mon premier semestre.
Ah oui,
Et
une belle
ah
remontada là.
oui, j'ai fait une grosse remontada. Ensuite, j'ai perdu des places à mon second semestre parce que ben, j'avais une grosse baisse de motive parce que j'avais trop donné au premier semestre et donc du coup, j'avais plus trop la foi. Donc, j'ai fini 350, mais j'ai été prise du coup en pharmacie. J'ai été prise au dixième. Donc ouais, j'ai fini dixième en pharmacie. Lors de ma deuxième passée.
Bah, félicitations, hein.
Bah
Félicitations, quel
merci.
comeback, bravo.
Merci.
Et qu'est-ce qui résonne en toi en fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire pharma? Tu m'en as parlé un petit peu au début, j'aimerais que tu m'en parles un peu plus maintenant.
Ce qui m'a poussée à faire pharmacie, en fait, bah, du coup, déjà, on entend beaucoup de rumeurs sur la pharmacie, comme quoi bah, ça se limite qu'à l'officine, ou que bah, du coup, c'est une épicerie, enfin, on devient épicier à vendre des médicaments, ou on fait que de la chimie. Tous les clichés qu'on peut entendre et tous les préjugés qu'on peut avoir sur cette filière ils sont très très nombreux. Mais en fait, finalement, bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en pharmacie, quand on fait cette filière-là, on peut travailler, mais dans de nombreux domaines. Et en fait, ces domaines sont très peu connus par les étudiants. Et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup regretté, c'est qu'on ne parle pas de toutes les possibilités avec le diplôme de pharmacien. Et donc, de base, moi, quand je suis rentrée en pharmacie, c'était vraiment pour faire officine, parce que c'était un truc qui me plaisait, parce que j'ai un peu la firme commerciale aussi, j'aime bien ça. Et j'aime bien la relation avec les patients, qui sont aussi des clients. Et enfin, pour moi, c'était quelque chose qui me plaisait énormément. Ensuite, j'ai beaucoup, beaucoup évolué parce que j'ai découvert donc la diversité en fait de cette filière. Car ce qu'il faut savoir, c'est que on peut. Y a, du coup, je vais expliquer un peu, je peux
Oui,
expliquer les études.
j'allais demander de le faire.
Ok, très bien. La troisième, enfin la deuxième et troisième année sont des filières qui sont générales, ainsi que le premier semestre de quatrième année, qui est aussi très général. Donc du coup, c'est des cours. Pour tout le monde, pour toutes les filières, peu importe ce qu'on veut faire après par la suite. À la fin de la quatrième, enfin, à la fin du premier semestre de quatrième année, en décembre, on choisit une filière. Donc du coup, on a le choix entre l'officine, qui est travaillée en pharmacie de ville, où on a réalisé beaucoup de stages en deuxième et en troisième année là-dessus. Ensuite, on a le choix avec la filière internat. Donc là, du coup, c'est pour travailler à l'hôpital et c'est un concours, un nouveau concours. Qu'on prépare au quatrième et au début de la cinquième année, et on passe en décembre de cinquième année. Et les places sont très, très, très limitées. C'est un concours national. Et
Est-ce
il y
que c'est un
a.
peu comme les océennes?
Oui, ça ressemble parce que finalement, après, on devient interne un peu. Enfin, on devient interne en pharmacie, donc ça ressemble à l'internat de médecine. Et du coup, ça permet donc de devenir pharmacien soit hospitalier, soit pharmacien biologiste, ou on peut aussi faire enseignant-chercheur. Donc voilà. Après, je ne connais pas totalement cette filière, mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres possibilités avec la filière internat. Et je sais qu'on peut travailler du coup en tant que pharmacien dans les laboratoires d'analyse en ville ou à l'hôpital. Ensuite, il y a la filière industrie. Donc là, c'est une filière qui est très, 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 très vaste et on a énormément de possibilités. On peut, la filière industrie en sixième année, à Poissy, il n'y a pas de cours. Et en fait, c'est un master qu'on réalise parce que grâce à notre. À partir du moment où on valide notre cinquième année de pharmacie en filière industrie, c'est comme si nous avons validé en fait le master en première année. Donc on peut intégrer directement un master en deuxième année. Et du coup, là, on peut travailler dans beaucoup de choses, que ce soit la cosméto, que ce soit le marketing, la production de médicaments, la recherche donc par les essais cliniques, les essais précliniques, la toxicologie, enfin. Vraiment énormément, énormément de choses, les dispositifs médicaux, c'est très, 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 très vaste, ça passe par beaucoup, beaucoup de domaines. On peut aussi très bien travailler dans tout ce qui est pharmacovigilance et donc siéger auprès de l'ANSM qu'on entend beaucoup, beaucoup parler en ce moment
Bah
dans la
oui, avec le virus,
validation.
oui.
Voilà. Et donc, du coup, on a la possibilité, en fait, en tant que pharmacien, de siéger au sein de ces comités, en fait. En tant que consultant. Donc voilà, c'est vraiment
Ok, donc
très très vague.
c'est très 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 vaste en fait, plus que vague,
Oui.
c'est ultra vaste. Et bah du coup, bah ça c'est parfait, ça me fait une magnifique transition sur ma question qui allait suivre. Imagine un P1 qui est plutôt bien classé, qui est plutôt confiant sur le fait qu'il peut aller en pharma, mais qui hésite, comme toi. Qu'est-ce que tu lui dirais?
En vrai, si la pharma, si la pharmacie l'intéresse, il ne faut pas s'arrêter aux préjugés des gens. Parce que malheureusement, si on écoute les autres, on ne fait pas grand-chose. Et du coup, il faut vraiment se lancer dans cette filière-là. J'ai eu énormément, énormément de questions de personnes justement qui ne connaissaient pas la diversité de cette filière et qui s'arrêtaient à l'officine et qui ne voulaient pas faire pharmacie parce qu'ils avaient peur que du coup, il y ait trop de chimie et que on finisse juste à vendre des médicaments. Et en fait, moi, quand je leur ai expliqué tout ce qu'on voyait en cours tout ce qu'on tous les métiers qu'on pouvait faire derrière, et bien du coup, moi, si j'ai un conseil à donner du coup à ce P1, ça serait vraiment de se lancer dans cette filière et sans hésitation parce que ben, on a quand même 2 ans et demi pour réfléchir à quelle filière on veut faire par la suite, à quel métier quel métier pourrait nous plaire et faut vraiment pas hésiter parce que c'est vraiment juste c'est trop bien de juste avec cette filière et cet unique diplôme avoir un panel de métiers autant quoi.
J'adore ton enthousiasme. Est-ce que tu peux me raconter vite fait là quelques-unes de tes expériences de stage qui t'ont vraiment marqué ou qui t'ont vraiment plu?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, du coup, ça dépend beaucoup des facs, mais à Poitiers, on n'a pas énormément de stages. C'est un peu à nous d'aller chercher pour faire des stages en industrie et découvrir le monde industriel ou l'internat. Du coup, finalement, c'est à nous de se renseigner auprès des profs et de faire des stages par nos propres moyens. Mais du coup, j'ai eu l'occasion de faire un stage de 1 mois en officine, l'été dernier, entre ma deuxième année et ma troisième année. Et
Ouais.
c'était vraiment trop bien. Après, ça dépend vraiment du maître de stage qui nous accompagne aussi, et puis dans quelle pharmacie on est, parce que normalement, c'est juste une découverte du métier de pharmacien. Et ça s'arrêtait à beaucoup. Au début, 1 mois, ça peut paraître long parce qu'on fait tout le temps la même chose. On découvrait. Enfin, j'avais l'impression de ne pas trop découvrir certaines choses. Mais avec la maître de stage que j'avais, elle m'a quand même laissé faire un peu de comptoir accompagnée d'elle. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'accompagner des patients, de les conseiller sur des produits de beauté, sur des cosmétiques, sur. Des petits trucs comme ça, de faire mes propres ordonnances, de préparer mes propres ordonnances et tout ça. Et c'était vraiment, vraiment trop bien. C'était vraiment une trop bonne expérience et ça a même remis en question mon orientation. Et donc, du coup, c'est que c'était vraiment positif pour le coup.
Donc ça a validé, ça a en quelque sorte validé toutes les attentes que tu avais de cette filière en fait.
Oui, parce que j'avais beaucoup, j'avais beaucoup d'a priori aussi sur l'officine, parce que de base, quand j'ai intégré pharmacie, je voulais faire officine. Ensuite, je me suis dirigée vers l'industrie, parce que, les essais cliniques et la pharmacovigilance, c'est un domaine qui m'intéresse et qui m'intéressait et qui m'intéresse encore. Et du coup, lors de ce stage, en fait, j'ai découvert aussi un peu la diversité et donc, j'ai un peu casser les préjugés, mais par moi-même. Et je me suis rendu compte que, pharmacien, en officine, c'est certes, tu fais du comptoir et on vend des médicaments, ça, c'est un peu la base du métier, j'ai envie de dire. Mais derrière, il y a toute une gestion de marketing, de comptabilité, de beaucoup, beaucoup de papiers à envoyer pour le remboursement des médicaments, les mutuelles et tout ça. Mais il y a aussi la gestion d'équipe et d'aujourd'hui, le métier de pharmacien en officine, il évolue énormément avec la vaccination contre la grippe, du coup, qui est sur le marché maintenant. Mais on a aussi beaucoup d'autres missions. On a, enfin, je veux dire, l'accompagnement. Normalement, on serait censé accompagner, les personnes à partir d'un certain âge et leur expliquer à part comment ils doivent prendre le médicament pour un bon usage et une bonne observance du médicament. Chose que tout le monde ne fait pas, mais normalement on serait censé faire ça. Et ça va, enfin c'est un métier qui se développe de plus en plus et qui sort du coup du fait qu'on est simple vendeur de médicaments. Et ça, c'est génial.
Donc ouais, c'est une palette de compétences différentes qui vient de s'ouvrir un peu, qui est différente de ce qu'on peut voir en médecine ailleurs, comme tu disais, avec du marketing, du relationnel, du commercial, mais aussi de la connaissance technique, j'imagine, avec toute la chimie qui va autour. Donc c'est vraiment enfin de ce que tu me racontes, j'ai l'impression que c'est vraiment une palette en fait de nouvelles compétences qu'on doit apprendre et ça sort un petit peu de ce que tu as l'habitude en fait.
Exactement.
Ok. Est-ce que tu aurais un petit conseil, pas un petit conseil, pardon, un petit boost de motivation à donner à un P1 qui donne tout pour réussir son deuxième semestre et le motiver à fond? Qu'est-ce que tu lui dirais?
Je dirais qu'il faut absolument pas lâcher parce que derrière les enfin parce que derrière c'est on revit enfin je on les années après, c'est juste génial. On rencontre des gens, on rentre vraiment sur un peu sur le monde professionnel, on se rapproche de notre objectif et il faut vraiment pas lâcher, il faut toujours garder en tête notre objectif, pourquoi on est là et pourquoi on se bat finalement. Et vraiment, enfin, faut vraiment garder la motivation et jamais oublier, jamais oublier pourquoi on fait ça. Et même si les résultats ne sont pas à notre hauteur, même si on a beaucoup, beaucoup de retard, il faut vraiment voir les choses positives et laisser les choses négatives de côté. Et moi, je souhaite beaucoup, beaucoup de courage parce que je sais que ce n'est vraiment pas facile en cette période-là en plus. Et je sais que... Enfin, moi, je me suis toujours dit, et ça, c'est une phrase qu'on m'a toujours répétée, je vis beaucoup avec des citations et on m'a toujours dit « il faut stresser, mais pas trop ». Et ensuite, on m'a toujours dit... Ça, on me l'a toujours dit, c'est pas facile à faire, hein, je l'avoue. Mais on m'a aussi toujours dit, quand on arrive au concours, il faut arriver comme si on arrive sur un ring de boxe et on est là pour écraser les autres. Donc voilà, du coup, en passesse, lors de ma deuxième passesse, c'est ce que je me disais. Et du coup, c'est un conseil que je vais donner. Enfin, imaginez-vous en mode grand boxeur, et frapper les autres. Enfin, genre, vous êtes là pour pour détruire les autres et parce que vous méritez votre place et parce que vous n'êtes pas plus bête qu'un autre finalement si vous êtes ici et qu'il faut absolument garder la motivation et ça c'est un truc qui est c'est la clé quoi.
Ah, merci Manon pour ces paroles motivantes. Tu me donnes envie de refaire une passesse là. merci beaucoup Manon. En tout cas, c'était un vrai plaisir de t'avoir sur le podcast. N'hésitez pas à aller voir son compte sur Instagram little-pharma si vous voulez des conseils sur la pharma. Je suis sûr qu'elle sera un plaisir de vous répondre par message.
Exactement, n'hésitez vraiment pas à me contacter.
Eh bien écoute, en tout cas, bon courage pour la suite. J'espère que tu auras encore plein d'expériences de stage intéressantes et que tu vas trouver ta voie dans l'officine.
Eh ben merci beaucoup du coup à vous parce que vous faites c'est vraiment trop bien votre formation et je la recommande et là les podcasts que vous êtes en train de développer je trouve ça juste génial et donc je vous remercie.
Merci beaucoup, allez à bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Si t'as bien aimé, comme toujours, la meilleure façon de soutenir c'est de mettre 5 étoiles au podcast. Comme ça, il sera mieux référencé et ça nous aidera à trouver des nouveaux invités. D'ailleurs, si tu penses que ça peut aider un ou une de tes potes, n'hésite pas à lui partager. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.